On reçoit donc aujourd'hui Info Endométriose, association active depuis 2015, œuvre à sensibiliser sur le thème de l'endométriose par de nombreux biais, des campagnes de sensibilisation ou encore en menant des actions de plaidoyer auprès des politiques et des pouvoirs publics, débouchant sur des partenariats et des actions à l'échelle nationale et internationale. On est donc en compagnie de Cécile Tony, présidente et directrice de la communication et de l'image. T'as aussi lancé la chaîne de podcast Mon Endométriose, en août dernier. Bienvenue donc dans la matinale.
Mais tu as tout dit, Camille, j'ai plus rien à dire, mais c'est formidable, quel beau lancement.
Parce qu'on va rentrer dans les détails, parce qu'on a besoin de commencer par le début, vraiment la définition et tout. En plus, on te reçoit à une date qui tombe vachement bien, puisque cette semaine a lieu la 17e journée européenne. 18e, pardon.
Semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose.
Ouais.
Qui est importante.
Rebecca est en train de corriger sur mes notes.
Je faisais discrètement.
Pas de problème.
C'est pas grave.
Tout d'abord, juste, est-ce qu'on peut commencer par le début
C'est quoi l'endométriose?
On peut commencer par c'est quoi l'endométriose?
Alors, l'endométriose est une maladie chronique, c'est une maladie liée aux règles, une maladie de femme qui touche plus d'une femme sur 10. La définition exacte, médicale, vous pouvez la voir sur le site internet, mais en fait, quand on a nos règles, il y a l'endomètre qui s'épaissit. Et puis, s'il n'y a pas fécondation, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un embryon qui vient se poser sur cet endomètre qui s'est épaissi, son endomètre se détache et s'évacue par le vagin et ça s'appelle les règles. Et oui.
Juste l'endomètre, si on peut.
C'est une couche qui est dans l'utérus, en fait, et c'est okay. Là où le bébé va venir, quand il y a fécondation, okay. Le bébé va s'attacher et va se développer dans cette partie de notre.
Ok, c'est genre la paroi interne
voilà,
de l'utérus.
Voilà, c'est la
en
paroi
fait.
Interne okay. De l'utérus, exactement. Okay. Et quand il y a nos règles, il y a des petites cellules de sang qui peuvent aller s'installer des lésions au niveau des ovaires, des trompes, okay. Un peu partout, envahir cette partie. Et du coup, ça s'appelle, s'il y a inflammation, et du coup, ça crée des douleurs. Et on appelle ça de l'endométriose. Voilà.
Ok. Trop bien.
Voilà, trop bien, je ne sais pas. C'est la plus claire, précise. C'est un peu médical, mais voilà.
Okay.
Et donc, cette maladie, surtout les symptômes, je pense que c'est important de les préciser. Donc, c'est des règles très douloureuses. Ça peut aussi avoir des symptômes, pas spécialement que pendant les règles. Des douleurs sexuelles pendant les rapports, ça, c'est important de le souligner. Première cause d'infertilité, ça, c'est aussi un combat. Pourquoi je me suis aussi engagée, parce que ça a bouleversé aussi ma vie, parce que ça a touché justement la partie la plus intime de moi. Donc, okay. Et ça, je pense que c'est hyper important de le signaler aujourd'hui. Beaucoup de fatigue aussi. C'est une maladie qui fatigue énormément, qui peut être vraiment handicapante pendant ces périodes où il y a des grosses douleurs. Qui atteint aussi, qui touche aussi, je pense que c'est physique et psychologique. Donc, elle peut vraiment bouleverser et impacter énormément la vie d'une femme. Voilà. Et il y a autant de femmes qu'il y a d'endométriose.
Okay.
Parce que voilà, c'est pour ça aussi que j'appelle un peu mon endométriose, parce que depuis que je me suis engagée et que je rencontre de plus en plus de femmes et que je donne aussi, qu'on donne la parole aux femmes, on se rend compte que cette maladie, elle bouleverse. Il y a les symptômes, il y a le côté médical, mais aussi l'aspect, l'impact qu'elle a sur toi, quoi.
Donc il y a plein de types de différents.
J'ai pas envie de parler de stades, c'est aux fonctions aussi. Tu peux avoir très bien une endométriose qui t'a pas vraiment envahi, mais qui te fait énormément souffrir et qui peut jouer sur ton moral, qui te fatigue énormément. Tu peux avoir aussi une endométriose qui est plus profonde et avoir des douleurs ou en avoir moins. En fait, c'est vraiment comment. Enfin, vraiment, il y a un aspect, je ne sais pas comment je m'exprime assez bien ce matin, je suis un peu fatiguée, mais aussi d'isolement, de fatigue, de psychologie qui est ici très importante liée à cette maladie. Voilà.
Okay.
Et ce que raconte dans la campagne, toujours là aussi.
Mais justement, on voulait en parler de cette campagne d'information qui a été faite en collaboration avec France Télévisions. Est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu?
Oui, il y a plusieurs choses. Donc déjà, elle a été réalisée par deux femmes que je voudrais citer, Charline et Andrea d'Allegory Studio, qui nous ont vraiment accompagnées sur cette campagne. C'est la deuxième qu'on lance. On avait lancé en 2016 la première campagne qui était « Les règles, c'est naturel ». Pas la douleur, c'était la première campagne nationale, c'était la première fois qu'on mettait le mot un peu endométriose face à la société, parce que c'était un mot qui était complètement inconnu, on disait de quoi, tu vois, c'était vraiment le truc. Et au bout de 5-6 ans, là, on s'est rendu compte, avec aussi la stratégie nationale, que beaucoup connaissaient ce mot, mais connaissaient pas vraiment la maladie, on parle des symptômes ou autre, mais Et du coup, avec Toujours Là, on a vraiment, Charline ou Andreas aussi atteintes d'endométriose, on a vraiment voulu faire un constat et avoir un impact, un message un peu puissant et aussi militant, et de proposer, bon, de trouver des femmes qui avaient envie de témoigner et de montrer, je me répète, mais l'impact qu'avait la maladie au quotidien sur chaque femme. Et cette campagne, elle montre vraiment ça. Des témoignages forts, des chiffres clés aussi pour montrer, quand tu vois, quand tu dis 47% des personnes qui ont des douleurs pendant les rapports sexuels sont atteintes d'endométriose, 47%, c'est pas un petit chiffre. 7 à 10 ans pour être diagnostiqué, c'est pas un petit chiffre. 80% des personnes atteintes d'endométriose qui sont en PMA sont souvent atteintes d'endométriose, 80%. C'est 89% des femmes qui, bon, je vais pas toutes les citer, mais il y a les chiffres sont quand même,
plus tu cites, plus ça bouge.
Voilà, plus tu cites, et c'est pour ça aussi que dans le cadre de la stratégie qui a été lancée, qui a été gérée par Chrysoula Sakharopoulou, qui a fondé Info Endométriose, qui est devenue députée européenne, on a réussi à le porter le plus haut. C'est-à-dire aujourd'hui, le président de la République a quand même a réussi à mettre des témoignages de femmes sur son Instagram, sur ses réseaux sociaux. Il a quand même pris la parole pour faire entendre à notre société qu'il y avait plus de 2 millions de femmes qui souffraient de cette maladie et qu'aujourd'hui, les tabous des règles et qu'on devait écouter la douleur des femmes. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que moi, je m'élite aussi. C'est qu'aujourd'hui, j'ai eu trop, justement, t'as mal, c'est dans ta tête, c'est pareil, t'es une femme, nanani, tes règles, cache-toi pendant que tu peux pas dire que t'as tes règles. Non, stop, on va arrêter. Ça, c'est fini, c'était avant. Enfin, j'espère.
Oui. Et du coup, concrètement, comment une personne peut
savoir qu'elle a de l'endométriose? Déjà, sa douleur. Ouais. C'est-à-dire que si vous souffrez, à chaque fois que vous avez vos règles, vous avez une douleur permanente, latente, qui est tout le temps en vous, il faut aller consulter. Après, on se connaît. Si au niveau du bas du ventre, on sent qu'on a des douleurs pelviennes ou que ça ne va pas, ça peut être aussi des douleurs dans le bas du dos. Enfin, vraiment, il faut aller consulter ton médecin. Okay. Après, ton médecin, tu as le médecin. Alors, tu peux aller voir ton médecin traitant, lui expliquer qu'il peut aller t'orienter vers un gynécologue ou aussi vers une sage-femme. Et une fois que tu as ce premier examen, le médecin doit juger, te diagnostiquer ou pas, ou sinon t'envoyer, s'il ne fait pas une échographie pelvienne, via un radiologue. Et lui va faire des images, et avec ces images, on va pouvoir diagnostiquer l'endométriose.
Okay.
Mais il y a une visite avec forcément un toucher vaginal, parfois un toucher rectal, qui n'est pas agréable, mais ça fait partie aussi de... Mais les filles, allez consulter, c'est hyper important. On a fait de la sensibilisation avec d'autres associations parce qu'on va sensibiliser les jeunes filles aussi. Et c'est vrai que les jeunes filles me disaient, tu vois, bon, elles ont entre 13 et 15 ans, « Ah non, moi j'irai voir un gynécologue quand je serai enceinte. » J'étais là genre,
on est en 2022
les filles. Alors les tabous des règles, pas du tout. Genre, ouais, on en parle et tout, on s'en fiche, j'en parle à mon frère et tout. Donc ça, je trouve que c'était hyper agréable à entendre. Mais par contre, ça m'a... Et c'est ça aussi qui est hyper important, c'est de vraiment que les jeunes filles... diagnostiquer l'endométriose quand t'es jeune, c'est hyper compliqué. Parce que c'est en fonction que t'as du sang qui s'écoule, donc que t'as tes règles, que les menstruations sont là, et elles vont envahir les parois. Mais du coup... Plus tu consultes, même si tu as des fortes douleurs et que le médecin ne va pas pouvoir spécialement te diagnostiquer tout de suite, mais il faut qu'il y ait un suivi, en fait. Il faut aller chez le gynécologue ou chez une sage-femme tous les ans. Voilà.
Au moins.
Non, mais quand tu es plus jeune et après, quand tu grandis, forcément, après, il faut essayer de trouver le médecin avec lequel tu as un bon rapport. Je sais que ce n'est pas toujours évident parce que aussi, c'est une histoire d'humain, mais c'est hyper important. Hyper important. Pour la santé de la femme.
Du coup, est-ce que vous êtes amené à faire des interventions de sensibilisation dans les milieux scolaires?
Alors, milieu scolaire, on en a fait. On va en refaire dans le cadre de la stratégie. On va travailler justement avec tous les ministères de la santé, de la jeunesse et du sport. On a déjà signé des conventions. On avait déjà en 2016 signé une convention avec le ministère de l'Éducation où on avait mis plus de 40 000 affiches dans les infirmeries. On y va. Hein. Bien sûr qu'on va continuer et on va essayer de faire aussi avec, dans le cadre de cette stratégie, et même nous, on est en train de faire des kits de pédagogie, des interventions, on va en prévoir dans les écoles et travailler avec le ministère de la Santé pour faire aussi des campagnes ciblées.
Justement, ce que tu as parlé, tu as donné quelques actions et tout, mais concrètement, vu que l'association... Elle est Info Endométriose, on le redit.
Merci.
Elle est active depuis 2015. Comment ça se passe, vous? Comment vous établissez votre stratégie, en fait? Est-ce que c'est sur des événements en particulier, mais vous êtes quand même tout le temps actif?
Alors, on est de plus en plus actif, parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'on parle de plus dans l'endométriose, mais il y a 4 ans, quand moi je commençais à faire des coms et tout, je veux dire, pour avoir un article, ou quand t'allais voir les gens et que tu parlais d'endométriose, on disait quoi? Qui? Maladie liée aux règles, aux femmes? Attends, salut. Donc t'es là, donc on a du spa en faisant... on a travaillé, donc nous, à un fonds endométriose, on essaie de libérer les paroles et aussi les créativités. Donc on essaye aussi de te faire de l'image, on va dire, parce que c'est aussi notre rôle, qui soit le plus accessible à la nouvelle génération. Et nos actions concrètes, c'est qu'on avait la semaine européenne. Donc pendant cette semaine européenne, on essayait de créer du contenu pour sensibiliser autour de l'endométriose. Et on a fait des courts-métrages avec des personnalités, Julie Gaillet, qui nous a accompagnés pour fonder l'association, mais aussi Anna Moglalis, Camille Chamou, où on a demandé à une réalisatrice de documentaires qui travaille beaucoup sur France Culture, qui s'appelle Johanna Bedeau, qui a réalisé 6 courts-métrages. Et en fait, c'est issu de témoignages réels, donc faits par des patientes, retranscrit et incarné par des personnalités, parce que c'était plus facile à l'époque de mettre des...
Pour la communication.
Oui, il fallait des personnalités. Et c'était la première fois, à l'époque, qu'on parlait réellement de la maladie aussi. Mmh. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que il y a un vrai mouvement, tout le monde est sur l'endométriose, mais concrètement, c'était pas si évident aussi de pouvoir agir sans se prendre des portes fermées, quoi. Mais on a travaillé énormément avec le pouvoir public, avec nos mécènes, avec nos bénévoles, pour essayer de sensibiliser, d'informer le plus possible.
Mais alors justement, pourquoi ce grand tabou? Enfin, j'imagine que le patriarcat y est pour beaucoup. Mais
c'est une maladie qui existe depuis longtemps. Hein. Voilà, quand tu regardes, on a fait sur nos contenus un fait avec une bénévole à nous qui s'appelle Christine, et qui a un truc qui s'appelle la documentale, pardon. Et on a fait en dos, en archive, justement pour montrer un peu que l'endométriose, en fait, ça existe depuis plus de 400 ans. C'est pas une maladie. Mais comme c'était une maladie liée aux femmes, elle était considérée à l'hystérie, les règles, la folie. Mmh. C'était quand même beaucoup d'hommes qui étaient médecins. Faut revoir un peu le passé. Et c'est une maladie qui a toujours existé, mais qui était mise sous le tapis, quoi. On n'en parlait pas, tout simplement. Et Chrysoula, médecin, chirurgien, elle avait beaucoup de femmes qui en souffraient. Elle s'est dit, mais c'est pas possible, on peut pas laisser cette maladie comme ça, inconnue. Il faut la sortir de l'ombre, en parler, quoi, tu vois. Et surtout parce que c'était lié aussi au tabou des règles. Comme c'est une maladie liée aux règles, le patriarcat, je pense un peu quand même.
Un peu beaucoup.
On va pas, mais évidemment, oui. C'est sûr que si c'était une maladie liée aux hommes, après,
On en parle depuis longtemps.
La prostate, mais c'est vrai que l'endométriose, on n'en parlait pas. Voilà. Maintenant, on en parle.
Que j'ai découvert, il y a 2 ans, vraiment.
Mais ça, c'est aussi lié à toutes les campagnes, tu vois, quand vous disiez les actions. Mais déjà, les actions, c'était de faire connaître cette maladie et créer des contenus qui puissent sensibiliser, qui ne soient pas trop trash, qui soient accessibles, qui aient des paroles aussi vulgarisées pour qu'on puisse comprendre. Et puis, à force, tu sais, de faire parler que les... Puis, il y a eu aussi le mouvement des femmes de ces 2 dernières années qui sont montées un peu au front. Vous connaissez tout ce qui s'est passé. Du coup, ça a aussi un peu aidé. Puis la nouvelle génération, moi, je crois qu'on n'est pas prêt à cette nouvelle génération. Et je suis très contente de ça. Mmh. Tu vois, qui a envie. Les réseaux sociaux aussi nous ont aidés. Parce que du coup, il y a eu cette... J'aime pas dire cette libération de la parole, évidemment, mais surtout cette écoute, je crois, aussi. Mmh. On a toujours parlé, je pense. Mmh. C'est qu'on a été moins écoutés. Là, il y a eu un espèce de truc où on a regardé les femmes, on s'est dit peut-être qu'on va peut-être les écouter. Et la santé des femmes a été, bafouée, je ne sais pas comment on dit, mis de côté énormément.
Étouffée,
je n'ai pas les mots, aidez-moi. Mais franchement, c'est ça aussi, parce qu'il y a l'endométriose, mais c'est le corps de la femme. Vous savez qu'il y en a femmes qui ne connaissent même pas leur corps. Tu vois ce que je veux dire? Cette partie-là, c'est fou! On sait la prostate, le pénis, tout ça, mais l'utérus, le vagin, le cul-de-sac de Douglas, je cite des trucs, tu sais même pas où c'est situé. Bon, mais c'est fait partie de ta partie intime. Donc, ça, c'est.
Oui, de toute façon, ça rejoint aussi toute la communication autour du clitoris et tout. Donc,
exactement. Clitoris, on peut en parler. J'ai l'impression que c'est combien de. Ça fait 3 ans qu'on sait qu'on a un clitoris
J'exagère. J'ai enregistré une dame de 92 ans. Je lui ai demandé, parce qu'elle me disait qu'elle se cachait pour lire les livres de médecine et apprendre comment était son corps quand elle était jeune. Et elle m'a dit que le clitoris, elle l'avait découvert quand sa fille a commencé ses études de psychologie et que d'un seul coup, elle l'a amené sur la table, quoi.
Putain, mais c'est fou, c'est... Ouais. Moi, ça me révolte, ça me révolte. Non, mais surtout que ça fait partie de son épanouissement personnel.
Bien sûr.
Je veux dire, c'est un clito, t'as un pouce, il te sert à attraper. Ton clito, il te sert quoi? À te faire jouir. Enfin, ça s'arrête là. Donc, enfin, je comprends pas.
Et justement, alors
moi,
on a on a parlé vachement des symptômes. Justement la partie comment ça influence sur ta sexualité. Ah. Est-ce que tu peux un peu plus développer?
Alors, la sexualité, donc c'est des douleurs, des fortes douleurs pendant les rapports sexuels. Donc, surtout quand on est jeune, quand on ne sait pas qu'on a de la maladie, ça peut vraiment te perturber dans ta vie, ton épanouissement personnel. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, donc j'ai eu l'endométriose, mes premières règles vers 14 ans. J'ai souffré, mais on me disait c'est normal, nanana, donc on ne savait pas. Et j'avais un fiancé avec lequel je suis restée longtemps, où j'ai eu mes premiers ébats sexuels, on peut dire ça. Et il y avait certaines positions qui me faisaient extrêmement mal. Et du coup, je n'osais pas en parler, je pensais que c'était moi le problème, parce que... Mais non, en fait, c'était lié à cette maladie. Et je pense que c'est hyper important de sensibiliser sur les douleurs sexuelles, parce que pour les premiers ébats amoureux, c'est hyper important l'épanouissement personnel, et ça peut créer, je pense, une gêne, des problèmes dans ton développement en tant que femme. Il faut surtout les jeunes filles, enfin les toutes femmes d'ailleurs, pas que les jeunes filles, si vous ressentez des douleurs un peu intenses, quand ça va au fond, que ça tape, excusez-moi, je suis un peu...
Non, il n'y a pas de problème.
Mais il faut que ça tape et que tu vois, tu te sens mal à l'aise. Normalement, quand on fait l'amour, il n'y a pas de douleur, il n'y a que de la jouissance et de... Voilà, et là, c'est pas de votre faute. C'est qu'il y a peut-être un problème et il faut aller consulter, tout simplement. Il faut en parler avec son amoureux, et je sais que c'est pas évident, je sais pas, l'amour d'un soir ou autre. Bon voilà, faut pas hésiter à dire j'ai mal, et surtout de pas se... C'est pas de votre faute en fait, tout simplement. Ce n'est pas de votre faute, il y a peut-être un problème et il faut aller consulter. Normalement, quand on fait l'amour, ça ne fait pas mal. Voilà.
Du coup, on parle de consultation, mais est-ce qu'il y a des...
Sexologue? Enfin,
j'imagine qu'il y a des traitements.
Alors, les traitements, quand on parlait de France Télévisions, j'ai mal répondu à la question. J'ai parlé d'Allegory Studio, mais ça fait la deuxième année qu'on fait un partenariat justement avec France Télévisions pour faire des spots pour sensibiliser le grand public, parce que c'est le rôle d'un fonds endométriose de mobiliser la société pour faire connaître cette maladie. Et à chaque fois qu'on a ce partenariat, on fait un appel aux dons. Un appel aux dons, justement, pour nous aider pour la recherche et la prévention. On a monté l'année dernière un partenariat avec l'INSERM. On est allé directement, c'est la première fois un peu que l'INSERM monte un partenariat avec une association. Ça, c'est mon vice-président Thomas Dubois qui travaille à l'Institut National du Cancer. Et c'est son job. Il a dit, il faut qu'on aille à l'INSERM. Il faut qu'on monte parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est la recherche fondamentale. D'accord ? Sans recherche, je ne peux pas vous dire tous les symptômes, comment c'est quoi l'endométriose. OK, mais on avance comment concrètement ? C'est-à-dire, si tu n'as pas de l'argent et du financement pour la recherche.
Okay.
Moi, je voudrais savoir pourquoi moi et pas toi, tu vois. Qu'est-ce qui fait que, OK, c'est une maladie des oreilles, chronique, inflammatoire, et puis génétique, c'est quoi en fait? Génétique, ma mère en avait, elle n'en avait pas. Mais pour ça, il faut des sous. Et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Donc, dans la stratégie nationale, on a réussi, quand on a justement commencé avec l'INSERM, ça a aidé dans la stratégie nationale. Il y a entre 20 et 30 millions d'euros qui vont être versés sur un plan d'action sur 5 ans directement à l'INSERM pour faire avancer avec le comité scientifique. Mais c'est jamais assez parce que nous, là, justement, pour revenir à France Télévisions, notre spot, à la fin, il fait quoi? Il dit qu'on n'a aucun traitement curatif. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un traitement. Aujourd'hui, le traitement, c'est quoi? La pilule. Donc, en fait, il y a de plus en plus de femmes qui veulent plus prendre la pilule. Donc, en fait, tu arrêtes la pilule et tu souffres et tu as super mal, ou tu prends la pilule et puis Sunny, dans un de ses témoignages qu'on a fait tout ça, elle a eu quand même un plumon thorax. Donc, soit elle prend la pilule et elle a les idées noires et ça ne lui va pas, baisse de libido, psychologie, grossir et tout. Donc, tu vois, donc le pansement qui existe aujourd'hui, c'est la pilule. Mais non, ce n'est pas suffisant en fait. Là, il faut vraiment, vraiment qu'on arrive. Donc, il faut des fonds. Mais c'est en train de se mettre en place. Hein, ça ne va pas se faire en un jour. Mais en tout cas, ce qui est assez bien, c'est qu'il y a une prise de conscience du gouvernement. Et que maintenant, il faut arrêter on continue à sensibiliser, mais il faut vraiment faire avancer la recherche pour un traitement curatif. Vraiment. ça sera la victoire.
Et alors, qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner les femmes, du coup ?
Bah, ce qui est mis en place pour accompagner les femmes, c'est une très bonne question. Bien sûr, un suivi avec son médecin, des pilules en continu. Après, pour chaque cas d'endométriose, c'est spécifique avec le médecin. Mais aujourd'hui, des anti-inflammatoires. Après, il y a de la médecine parallèle et complémentaire qui peut aussi aider. Chacune se débrouille un peu avec... Non, mais c'est vrai en plus. Enfin, c'est dur quand vous me posez toutes ces questions parce que même moi, j'étais confrontée à ça. Et parfois, je me dis même en tant que président, j'ai l'air con. Mais non, mais en fait, concrètement...
Non, moi, chaque femme est
différente. Mais c'est surtout... Enfin, il n'y a pas de traitement. Donc, en fait, si tu as mal et que tu n'as pas envie de prendre la pilule, qu'est-ce qui te reste? Les anti-inflammatoires ou à quoi? L'astrophologie. En fait, concrètement, après, il y a aussi quand ton stade est plus avancé, il y a l'opération. Mais aujourd'hui, on ne veut plus... Enfin, les médecins ne sont pas pour opérer. Parce que c'est pas non plus la solution.
C'est quoi l'opération du coup ?
En fait, c'est une opération qui est faite par célioscopie et en fait, ils vont gratter les cellules, enfin tout tout ce qui est les cellules qui ont colmaté au niveau de ton utérus pour enlever justement ce sang supplément. Ouais, moi je l'ai eu, hein, moi j'ai été opérée. Ouais, je l'ai été opérée, j'ai eu plus d'une semaine d'hospitalisation, un mois d'arrêt de maladie, une sonde, enfin je rentre pas dans les détails, mais on m'a enlevé une trompe, enfin voilà, que j'ai mal été suivie en amont et mal été diagnostiquée et du coup l'endométriose m'a envahi quoi, m'a envahi et il a fallu l'opération. Mais systématiquement, il y a pas opération. Moi, j'ai pas envie de faire peur les jeunes filles ou les personnes qui nous entendent, c'est par rapport à ton endométriose, c'est ton médecin qui va te dire ce qu'il faut faire. Mais il n'y a pas de traitement. Tiens, prends ça et tu n'as plus d'endométriose. Non.
C'est peut-être pas un traitement qui est répandu, mais je sais que quand vous avez fait le point d'information à la mairie de Paris, il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui parlait de se faire des microdoses de testostérone ou d'hormones. Non.
Alors ça, je suis moins bonne. Je sais pas. Comme c'est une maladie liée à l'hormone, hein, parce que c'est une maladie de l'hormone, c'est les règles, hein, donc c'est peut-être oui.
Ok.
Je réécouterai ce qu'on a fait.
Ça m'avait vraiment marqué.
Ça m'avait marqué. Oui, c'est vrai que t'étais là en plus.
Oui.
Mais oui.
Et ça m'avait vraiment marqué parce que.
C'est qui c'est le médecin? C'est qui disait ça? Tu te rappelles ou pas?
C'était vraiment il y a 2 ans. Oui, c'est passé beaucoup de choses.
Il regarde le sol. Si c'était peut-être le
docteur. C'était une
femme. Alors les femmes, il y avait Enora ou il y avait Yasmine d'Indo France. Donc non, il y avait Marina aussi la chercheuse. Je regarderai très. Désolée, j'ai une colle. Mais peut-être, hein.
Parce que, justement, l'intervenante disait qu'elle avait essayé, justement, des micro-doses de testostérone et que ça réglait vachement le problème, mais que ça posait problème aux médecins de délivrer
ces
trucs-là par rapport à,
des hormones,
à la morale.
L'hormone, c'est même, tu vois... moi, j'en ai eu beaucoup quand j'ai fait de la PMA. Ça bouleverse la vie d'une femme, les hormones.
Ouais.
Beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'est spécialement recommandé. Mais bon, voilà. Là, je m'avancerai pas sur ce sujet parce qu'après, ils vont tous aller en faire aussi. Donnez-moi de l'hormone. J'ai l'endométriose. Elle l'a dit. Non, je n'ai pas dit ça. C'est Camille.
Oh mon Dieu. Okay, mais ne dis rien.
Vous
je
revenez
tout.
Là. C'est pas
mets
moi.
Tout sur mon dos. On va faire juste une petite pause musicale. Je vais mettre Vegin. Que je l'aime. Britney's New Baby.
C'est
tout de suite
femme,
sur Ins France. Tu veux qui alors? Okelou.
Ou alors le groupe Saad Abonner
qui
chante More
part.
Women.
Ah bah voilà, c'est bien ça.
Let's go.
Oh, I don't know why.
Matinale dans une France avec Rebecca et Camille Camille. Nous sommes toujours avec Cécile Tony d'Info Endométriose jusqu'à 11h.
Moi j'ai un petit point à soulever parce que je ne sais pas si on l'a dit depuis le début. Est-ce que l'info endométriose, mais l'endométriose elle-même, est-ce qu'elle peut survenir d'un seul coup ou est-ce que c'est dès le début des règles?
Non, je pense que ça peut survenir d'un seul coup après une grossesse. Non, il n'y a pas de règles là-dessus. Justement. Ouais. Non, il n'y a plein de règles. Après, c'est vrai que c'est souvent des symptômes liés aux premières règles, mais pas spécialement.
Ouais, ça peut d'un seul coup, on ressent des douleurs et non, c'est parti.
C'est pour
quoi.
Ça que je répète, la recherche est importante aussi
pour moi. Je pense vraiment que c'était que pendant l'adolescence, moi, que ça.
Non, pas que pendant l'adolescence. Non, il y a des femmes, on a un témoignage de Laura, elle l'a eu après sa première grossesse.
Ok, wow.
Donc, non, pas spécialement.
On parlait de la relation de couple en off, du coup, et l'importance que ça avait, le dialogue là-dedans.
Parce qu'on parlait justement des rapports sexuels compliqués, on n'a pas parlé de PMA, de première cause d'infertilité, et ça peut bouleverser la vie d'un couple, parce que quand il y a un désir d'enfant, et qu'il y a une maladie que tu sais ou que tu ne sais pas, et que ce désir d'enfant n'arrive pas, faut être solide. Ça fait être solide parce que parfois c'est des parcours qui sont très longs et les parcours de PMA c'est pas rien dans la vie d'un couple, dans la vie d'une femme mais aussi dans la vie d'un couple parce qu'on est deux à faire un parcours de PMA, c'est pas que la femme, c'est le mari aussi. D'aller se branler dans une petite boîte pour donner ton truc, normalement l'amour c'est quand papa maman ils font l'amour et hop il y a un bébé. Quand c'est pas comme ça que ça se passe, oui ça peut être hyper traumatisant. Enfin c'est puis les prises d'hormones, les traitements qui sont très durs. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'échecs. Tu sais, quand ça ne marche pas, c'est un protocole, une PMA. Donc, un protocole, c'est quand même un mot qui fait peur. On fait des protocoles de cancer, c'est quand c'est des grandes maladies. Et le protocole t'inflige beaucoup de stades. Et avant de tomber enceinte, il peut y avoir beaucoup d'échecs. Alors, il y a des femmes, ça arrive du premier coup. Mais quand il y a... Enfin, en tout cas, moi, je parle personnellement pour mon cas. Ça a pris plus de 9 ans et ça a été, j'étais pas assez diagnostiquée assez tôt et ça a pris beaucoup de place dans notre vie. Et c'est là où je dis qu'un mari, un fiancé, un amoureux, il faut qu'il soit hyper doux et bienveillant avec sa femme parce que c'est pas facile. Voilà. Le couple, c'est. C'est l'endométriose. Tu vois, quand on avait fait nos premiers courts-métrages, on avait mis un homme aussi pour qu'il puisse... Parce que parfois, les garçons, ils ne comprennent pas l'homme, la douleur, les changements d'humeur, les pleurs, la fatigue. Et c'est vrai que du coup, tout ça peut engendrer ta vie du quotidien, tout simplement, et dont ta vie de couple. Donc, il faut aussi... Je dis tout ça pour dire qu'il faut dialoguer, quoi, en fait. Voilà. Il faut en parler. Il faut s'expliquer, il faut pas avoir peur de il faut demander à l'autre d'être doux.
Parce que l'endométriose peut avoir un impact sur la fertilité.
Ah mais bien sûr, énormément. C'est la première cause d'infertilité. C'est pas un impact, c'est la première cause d'infertilité. Tout dépend où elle est placée, mais si par exemple tu as l'endométriose sur les ovaires, oui, ça peut être un sérieux problème. Donc oui, ça va t'empêcher de faire un enfant naturellement.
Et surtout, c'est comme, tu parles de soutien et tout, mais j'ai complètement perdu ce que je voulais dire. Excuse-moi, vraiment. Merci. J'y arrive pas. Ah oui, juste, on parlait du couple et justement de l'influence que ça a sur la sexualité, mais que du coup, ça pouvait poser problème dans l'équilibre du couple, dans le sens où il y a quand même une pression sociale,
oui,
je veux dire.
De faire un enfant.
Dans le fait de faire un enfant, mais aussi de faire l'amour régulièrement, bien ce qui sûr. Est vraiment... bon, enfin, on en a parlé de toute façon, et on en reparlera aussi dans Radio Amour en général, qui est vraiment genre un truc ultra lourd dans le couple, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme,
le désir,
bien sûr.
Ouais, bien sûr. Il faut savoir en plus que quand tu as des traitements, en plus la pilule et autres, il y a une grosse baisse de libido. Ouais. Dans tous mes podcasts, mon endométriose, les filles qui témoignent, elles en parlent énormément. Comment tu gères ta baisse de libido dans ta vie de couple? C'est-à-dire quand tu n'as plus de désir sexuel, c'est-à-dire que tu as envie mais tu n'y arrives pas, quoi. Ben ouais, ça peut être un problème parce que l'autre, il a envie de faire l'amour, toi, tu n'as pas spécialement envie. Comment ça se passe? Whitney, dans son témoignage, où il y a les 6 premières femmes qui ont témoigné pour la campagne JCDECO, elle dit, soit tu le dis et t'as honte et autres, soit t'arrêtes, quoi, en fait, tu vois, parce que parfois, l'autre, il accepte pas ça. Donc oui, il y a un bouleversement.
Ouais, c'est violent un peu, mais...
Bien sûr que c'est violent, parce que c'est ton corps, c'est toi, enfin, tu vois, mais la société est violente, j'ai envie de vous dire que c'est pas, et que nous, on est là, je parle, c'est pour ça que ce mot bienveillance m'énerve aussi, parce que, en fait, il est pris à toute sauce, mais il y a de moins en moins de douceur les uns envers les autres, et ça, c'est... Et c'est vrai que... Surtout dans le fait d'en parler aussi, c'est pour ça que avec Toujours Là, on voulait aussi Toujours Là, c'est quoi? C'est que la maladie, elle part pas, elle est toujours là, elle est en toi, c'est-à-dire qu'elle peut revenir même si t'arrêtes un peu la ville quand elle revient. Par exemple, j'ai une amie qui m'a appelée qui a un désir d'enfant, elle me dit tiens, tu peux me conseiller un médecin? Mais elle me dit si j'arrête ma pilule, j'ai peur des douleurs et tout. Mais je dis oui, mais tu vas être obligée d'arrêter la pilule pour essayer de faire un enfant, parce que... Et elle a peur, parce qu'elle a pas envie de retomber dans ce truc de 2 à 3 jours par mois, être au fond de son lit, pas pouvoir se lever, et ça va bouleverser son quotidien, et elle a pas envie. Mais en même temps, je dis oui, mais c'est la pilule, tu vas pas pouvoir tomber enceinte, donc il va falloir qu'au moins pendant au moins 6 mois que tu prennes rien et que vous essayez naturellement. Et tu vois, dans toutes ces questions-là, donc toujours là, la maladie là, toujours là, l'accompagnement, ça c'était hyper important et ça revient aussi pour la vie de couple, d'essayer d'être doux, d'entendre, d'essayer d'accompagner, ça peut être ta meilleure amie, ta cousine, ta sœur, ta fiancée, juste l'écouter, parce que moi je me rappelle à l'époque... ma meilleure amie, Tania Poenaroso, quand on faisait les pitafranges et tout, elle m'a dit, oh là là, mais je ne savais pas, parce que moi-même, je ne savais pas que j'avais cette maladie. Elle me dit, parfois, j'ai été dure avec toi, parce que c'est vrai, j'avais des douleurs, je devais aller mixer, je devais faire des choses, donc du coup, je prenais des médicaments, je n'étais pas bien, quoi, parce que j'avais ça en moi, mais je ne pouvais pas annuler mes dates, et du coup, vis-à-vis des autres, je passais pour une relou. Ouais. Mais non, j'avais juste quelque chose qui n'allait pas et ça s'appelait l'endométriose et je ne savais pas. Et toujours là aussi, parce qu'on en est toujours là, comme je me répète, on se répète, mais on en est toujours là face à cette maladie, malgré toutes les mesures qui ont été mises, ça va mettre du temps. Et on le disait très clairement, au niveau encore des médecins, il y a encore beaucoup de formations, des filières à créer, plus les médecins doivent être encore plus sensibles à cette maladie et écouter... plus écouter la douleur des femmes.
Au final, en fait, ça rejoint vachement la volonté qu'il faut que la société et le gouvernement prennent en compte en fait, la douleur des règles. Et par exemple, on parle des congés menstruels et je trouve que...
J'ai signé une tribune là, de règles élémentaires là-dessus.
Ok, d'accord.
Bien. Oui.
Et juste prendre en compte cette douleur-là et l'influence que ça a vraiment sur la vie d'une femme, enfin d'une personne qui a un utérus.
Personne menstruée, parce qu'il ne faut pas exclure un pourcentage de notre société.
Okay, ouais. On va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire comment soutenir l'association
Enfants
Endométriose?
Alors, comment soutenir en faisant un don, ça paraît... Je sais qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est un peu... Mais c'est important aussi de nous soutenir pour qu'on puisse continuer notre travail. Il faut savoir qu'on est une association complètement à but non lucratif. On n'est que des bénévoles, donc il n'y a pas du tout de salaire haute. C'est vraiment tout l'argent qu'on nous donne, il est vraiment servi pour sensibiliser la prévention, la recherche, en fait, mener toutes nos actions pour qu'on puisse avancer sur sur le sujet et faire avancer la cause au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc voilà, aidez-nous en nous soutenant et puis aussi en devenant adhérent, en devenant bénévole. On a toujours besoin de créatifs, de personnes qui ont envie de, atteintes ou pas, hein, surtout chez enfants endométriose. Il n'y a pas que des personnes atteintes d'endométriose. On a beaucoup de bénévoles qui ne le sont pas, mais qui veulent aider leur soutien et aider les femmes et les personnes menstruées. Et donc voilà, donc vous pouvez aller sur notre site internet et mobilisons-nous pour faire entendre et la parole des femmes et que ce sujet ne soit plus un tabou pour notre nouvelle génération. Et moi, je veux pas que ma petite fille elle subisse ce que j'ai subi. Voilà.
Merci beaucoup, Cécile Tony, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous d'avoir pris ce sujet et de m'avoir invité. C'était hyper agréable.
C'était la matinale de Camille Camille et Rebecca. On se retrouve demain. Des gros bisous.
Bisous.
Des bisous.